Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. J'empaille moi-même tous mes petits chéris quand ils rendent l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé ?
Bonsoir.
Sur la cuisson des pâtes, ils pouvaient se montrer désagréablement pointilleux, voire impitoyables.
Oui, Mary, de toute mon âme et de tout mon cœur, je vous aime. Oh, Jack, racontez-moi plutôt une histoire.
Et cette histoire, tu la racontes ?
Ferme les yeux, ça va commencer. Bienvenue dans Ferme les yeux, votre émission de lecture accompagnée de musique. Ce soir, Herbert West, réanimateur de Howard Phillips, Lovecraft, épisode numéro 4.
Il y a des allumettes au fond de ses yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, du pot de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.
Le cri d'un mort. Ce fut le cri d'un mort qui inaugura les dernières années de mon compagnonnage avec Herbert West et qui attisa en moi une terreur à nul autre pareille. Pourtant, sans avoir la prétention d'être un expert en la matière, je croyais bien avoir fait le tour de la question, comme on dit. Je n'avais encore rien vu. Mais ce ne fut pas de l'homme mort. Non, ce ne fut pas de lui que j'eus peur. Quoique j'aurais préféré que ce fût le cas.
Key, my key. Ti darà quello che ti davo, un amore così puro. Dimmi chi ma chi t'amerà come ti amo, solo io, solo io, solo io t'amo, e solo io, solo io, solo io ti do, sì, solo io, solo io, solo io chi.
Non hai saputo capire che il nostro era molto più di un grande amore. Era vita. E che se anche fossimo vissuti ai lati opposti di questo mondo, avremmo dovuto incontrarci. Perché siamo due corpi di una sola anima.
Ti darà quello che ti davo, un amore così puro, dimmi chi.
West, dont j'étais l'associé et l'assistant, était animé d'un intérêt scientifique qui allait bien au-delà de la routine habituelle d'un médecin de campagne. C'est pourquoi, quand il s'était installé à Bolton, il avait choisi une maison isolée, près de la fosse commune. Pour dire les choses crûment, le seul intérêt de West était l'étude secrète des phénomènes de la vie et de la mort en vue de ranimer les morts par l'injection d'une solution revivifiante. Pour ce genre d'expérience macabre, il était nécessaire d'avoir un approvisionnement constant en corps humain très frais, car la plus petite décomposition endommageait irrémédiablement les cellules du cerveau. Nous avions découvert que la solution devait être composée de manière différente selon les types d'organismes. Nous avions tué d'innombrables lapins et autres cobayes, mais ces pistes ne menaient à rien. West n'avait jamais complètement réussi, car il n'avait pu se procurer de corps suffisamment frais. Ce qu'il voulait, c'était des corps où la vie venait de s'éteindre, des corps dont toutes les cellules fussent intactes et qui fussent capables de recevoir l'impulsion qui les ramènerait à ce type d'activité que l'on appelle la vie. Nous avions espéré que cette seconde existence artificielle pourrait être rendue perpétuelle par des injections répétées, mais nous avions appris que la vie naturelle ne répondait pas à cette excitation. Pour réaliser cette activité artificielle, la vie véritable devait avoir cessé. Les spécimens devaient être frais, mais bel et bien morts. Ces recherches macabres avaient commencé lorsque nous étions étudiants. À cette époque, nous croyions à la nature entièrement mécanique de la vie. Cela, c'était 7 années plus tôt. Mais West avait l'air à peine vieilli. Blond, rasé de près, portant lunettes, et toujours, toujours cette voix douce. Seul, parfois, l'éclair de ses yeux bleus acier pouvait révéler le fanatisme croissant de sa personnalité sous la pression de ses terribles recherches. Il faut dire que nos expériences avaient souvent été des plus horribles et les résultats des réanimations défectueux. Des masses molles provenant de l'argile des cimetières avaient été galvanisées par des injections de la solution vitale et avaient réagi par des mouvements morbides, non naturels et indépendants du cerveau. L'une de ces choses avait émis un cri propre à ébranler le système nerveux. Une autre s'était relevée avec violence, nous avait assommés et avait exercé bien des ravages avant d'être capturée et placée derrière les barreaux d'un asile. Une autre encore, une répugnante monstruosité africaine, avait réussi à sortir de sa tombe peu profonde et avait commis un meurtre atroce. West avait dû l'abattre. Comme nous n'avions pu obtenir de corps suffisamment frais pour qu'il fasse preuve de raison une fois ranimé, nous avions obligatoirement créé des créatures terrifiantes. Il était assez inquiétant de penser qu'un ou peut-être deux de nos monstres étaient encore en vie. Cette pensée nous hanta jusqu'à ce que, enfin, West disparut dans des conditions épouvantables. Mais à l'époque de ce cri, dans le laboratoire que nous avions installé au fond de la cave, dans notre cottage isolé, nos craintes n'étaient liées qu'à la difficulté d'obtenir des spécimens frais. À cet égard, West faisait preuve d'une avidité assez troublante. Si bien qu'il me semblait presque qu'il regardait avec convoitise tous les êtres vivants doués d'une bonne santé. C'est en juillet 1910 que notre malchance commença à tourner. J'avais effectué un séjour chez mes parents, en Illinois, et à mon retour, je trouvais West dans un état d'exaltation étrange. Il avait très probablement résolu, me dit-il avec excitation, le problème de la fraîcheur, grâce à une nouvelle méthode, celle de la conservation artificielle. Je savais qu'il travaillait sur un nouveau procédé d'embaumement, et je ne fus pas surpris d'apprendre qu'il avait découvert quelque chose, mais jusqu'à ce qu'il m'en eût donné les détails, je me demandais en quoi cette méthode pourrait nous aider, puisque l'état douteux de nos spécimens était due au délai qui s'écoulait entre leur mort et le moment où nous nous les procurions. West avait parfaitement conscience de cela. Il avait composé sa formule d'embaumement pour l'utiliser dans le futur plutôt que dans l'immédiat, et il s'en remettait au destin pour que celui-ci nous apportât de nouveau un cadavre très frais, non enseveli, comme celui du boxeur noir. Le sort nous fut enfin favorable. Nous finîmes par nous procurer un cadavre dont la décomposition n'avait pas encore commencé. West ne s'aventura pas jusqu'à prédire ce qui se passerait lors de la réanimation. Cette expérience serait une étape importante de nos recherches, et il avait gardé le corps pour mon retour afin que nous puissions ensemble assister au spectacle. West me raconta comment il avait obtenu le spécimen. C'était un homme vigoureux, un étranger qui était descendu du train pour traiter de certaines affaires avec l'usine de Bolton. Sa marche à travers la ville avait été longue et, quand le voyageur s'était arrêté devant chez nous pour demander le chemin des usines, son cœur avait déjà été soumis à rude épreuve. Il avait refusé un remontant et était tombé raide mort un moment après. Le corps avait semblé à West un véritable cadeau du ciel. Dans sa brève conversation, l'homme avait révélé qu'il était étranger à Bolton, et la fouille de ses poches nous apprit qu'il s'agissait d'un certain Robert Leavitt de Saint-Louis, apparemment sans famille, susceptible de faire des recherches sur sa disparition. Si cet individu ne pouvait être ramené à la vie, personne ne serait au courant de notre expérience. Nous enterrions en effet nos cobayes dans une forêt épaisse qui s'étendait entre la maison et la fosse commune. Mais si nous réussissions, notre glorieuse renommée serait établie à jamais. C'est pourquoi, sans attendre, West avait injecté dans le poignet du cadavre le liquide qui le maintiendrait frais jusqu'à mon arrivée. La présence d'un cœur peu solide, qui dans mon esprit compromettait le succès de notre expérience, ne semblait, étrangement, guère gêner West. Il espérait obtenir enfin une étincelle de raison, et peut-être une créature vivante normale. Donc, dans la nuit du 18 juillet 1910, West et moi étions dans le laboratoire de la cave et observions une forme blanche et silencieuse sous la lumière aveuglante de la lampe. La formule d'embaumement avait parfaitement fait son effet, car, fasciné par la vue du corps vigoureux qui depuis 2 semaines n'avait pas encore atteint la rigidité, je demandai à West de m'assurer qu'il était vraiment mort. Assurance qu'il me donna sans hésiter, en me rappelant que la solution de réanimation n'était jamais utilisée sans précaution préalable, puisqu'elle restait sans effet si la mort n'était pas absolue. Tandis que West procédait aux préliminaires, je restais impressionné par la complexité de sa nouvelle expérience. Complexité telle, d'ailleurs, complexité si grande, qu'il ne pouvait se fier à une autre main que la sienne. M'interdisant donc de toucher le corps, il injecta d'abord une solution dans le poignet, juste à côté de l'endroit où il avait injecté le liquide d'embaumement. Selon lui, cela devait neutraliser la formule et permettre au corps de revenir à une relaxation normale, afin que la solution de réanimation pût agir avec efficacité. Peu après, un changement et un vague mouvement semblèrent se produire dans les membres. West jeta violemment une sorte d'oreiller sur le visage qui se convulsait et le maintint jusqu'à ce que le cadavre fût immobile et prêt pour notre expérience de réanimation. Mon exalté camarade effectua encore quelques tests pour s'assurer de l'absence totale de vie. Il se déclara satisfait et finalement injecta dans le bras gauche une quantité soigneusement mesurée de l'élixir vital, préparé pendant l'après-midi avec plus de soin que lors de nos premiers tâtonnements du temps où nous étions encore à l'université. Je ne parviens pas à exprimer l'anxiété et l'impatience qui étaient les nôtres tandis que nous attendions les résultats. Rendez-vous compte, il s'agissait de notre premier spécimen réellement frais. Le premier dont nous pouvions attendre qu'il parlât d'une manière rationnelle, pour nous raconter peut-être ce qu'il avait vu de l'autre côté du gouffre insondable. Une telle éventualité laissait mon ami absolument insensible. West, je le rappelle, était matérialiste. Il ne croyait pas à l'existence de l'âme. Et il attribuait tous les effets de la conscience à des phénomènes physiques. C'est pourquoi il n'attendait aucune révélation sur les mystères et les abîmes de l'au-delà. Théoriquement, je partageais sa position, mais d'un autre point de vue, instinctivement, pour ainsi dire, quelques résidus de la foi primitive de mes ancêtres me revenaient. Si bien que je ne pouvais m'empêcher de regarder le corps sans une certaine appréhension. Et ce d'autant plus que je ne pouvais chasser de ma mémoire ce cri horrible, ce cri inhumain que nous avions entendu la nuit où nous avions fait notre première expérience dans la ferme déserte d'Arkham. Il s'écoula peu de temps avant que je visse que la tentative ne serait pas un échec total. Un peu de couleur revint sur les joues, jusque-là blanches comme de la craie, et s'étendit sous la barbe couleur de sable. West, qui tenait le pouls du poignet gauche, hocha brusquement la tête d'une manière significative, et presque simultanément, une buée se forma sur le miroir incliné vers la bouche du cadavre. Puis, quelques mouvements spasmodiques agitèrent les muscles. On put alors entendre la respiration et voir la poitrine se soulever. Je regardai les paupières fermées et crus qu'elles s'agitaient. Elles s'ouvrirent enfin, découvrant des yeux gris, calmes et vivants, mais encore dénuées d'intelligence et même de curiosité. En proie à quelques lubies fantastiques, je chuchotais des questions aux oreilles qui se coloraient, des questions sur l'autre monde, que sa mémoire pouvait encore avoir présent à l'esprit. La terreur qui s'ensuivit les a depuis chassées de mon esprit, mais je crois que la dernière que je lui répétai fut « Où avez-vous été ?» Je ne sais toujours pas si je reçus une réponse, car aucun son ne sortit de la bouche bien dessinée, mais je suis certain qu'à ce moment, les lèvres minces remuèrent silencieusement, formant des syllabes que je compris ainsi. Seulement maintenant. Si toutefois cette phrase a quelque sens. À ce moment, dis-je, j'étais convaincu, et j'exultais. Nous avions atteint notre grand objectif. Et pour la première fois, un cadavre ranimé avait prononcé distinctement des mots dictés par la raison. L'instant d'après, le triomphe ne fit plus de doute. La solution avait vraiment accompli, du moins temporairement, sa mission. Rendre aux morts une vie rationnelle et douée de langage. Mais ce triomphe suscita en moi la plus grande de toutes les horreurs. Non pas envers la chose qui parla, mais envers l'action dont j'avais été témoin et pour l'homme avec lequel j'étais professionnellement associé. Car ce corps si frais, qui reprenait enfin entièrement conscience d'une manière terrifiante, les yeux dilatés au souvenir de sa dernière minute de vie, se mit à agiter les bras comme pour se défendre contre un danger mortel. Et, avant de retomber brusquement dans une seconde inconscience finale et sans retour, il jeta ce cri qui résonnera éternellement dans mon cerveau douloureux. Au secours, arrière, maudit démon aux cheveux filasses, ne me touche plus avec cette maudite aiguille. Je compris alors en un éclair que ces regards que j'avais cru surprendre chez West, ces regards chargés de convoitises qu'il portait sur tous les corps vivants en bonne santé, n'avaient point été le fruit de mon imagination. West ne croyait pas à l'existence de l'âme. Et la sienne, dévoré qu'il était par ses recherches et son ambition démesurée, il l'avait tout simplement jetée par-dessus bord. Quant à la mienne, quant à mon âme, oh. Ferme les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps de les rouvrir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, jeudi, à 23h, pour un avant-dernier épisode des aventures de Herbert West. En attendant, vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur cfmradio.fr. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.